À l'aube, dans mon lit, je repassais la scène. Il me semblait vraiment avoir touché au sublime. Existe-t-il au sein de quelque culture mondiale un épisode mythologique de ce genre? L'amoureux est conduit, dans l'espoir d'atteindre l'inaccessible bien-aimé, vient lui annoncer que son frère a trahi. À ma connaissance, une telle scène n'a trouvé nulle part son illustration tragique. Les grands classiques n'auraient pas admis une conduite aussi basse. Le côté méprisable de cette attitude m'échappait totalement, et même si j'en avais été consciente, je ne pense pas que cela m'eût dérangé. Cet amour m'inspirait un tel oubli de moi que je n'eusse pas hésité à me couvrir d'opprobre. Qu'importait ma valeur désormais? Elle n'importait pas puisque je n'étais rien. Aussi longtemps que j'avais été le centre du monde, j'avais eu un rang à tenir. À présent, c'était au rang d'Héléna qu'il fallait veiller. Je bénissais l'existence de Claudio. Sans lui, aucune brèche, aucun accès, sinon au cœur, au moins à l'honneur de ma bien-aimée. Je repassais la scène. Moi, venant au-devant de son indifférence coutumière, elle, belle, seulement belle, ne daignant pas faire autre chose qu'être belle. Et puis les paroles honteuses. Ton frère, ma bien-aimée, ton frère que tu n'aimes pas, tu n'aimes personne sauf toi-même, mais qui est ton frère, inséparable de ton prestige. Ton frère, ma divine, est un pleutre et un félon de première classe. Ce moment infime et sublime où j'avais vu que, à cause de ma nouvelle, quelque chose en toi, quelque chose d'indéfinissable et donc d'important, était à nu. Par moi. Mon but n'avait pas été de te faire souffrir. D'ailleurs, le but de cet amour m'était inconnu. Seulement pour servir ma passion, il avait fallu que je provoque en toi une émotion vraie, n'importe laquelle. Cette petite douleur derrière ton regard, quelle consécration pour moi. Je repassais la scène avec arrêt sur image. Une transe amoureuse s'emparait de moi. Désormais pour Héléna, je serais quelqu'un. Il faudrait continuer. Elle allait encore souffrir. J'étais trop lâche pour faire du mal moi-même, mais je m'efforcerai de trouver toutes les informations qui puissent la blesser, et je ne manquerai jamais d'être celle qui apporte la mauvaise nouvelle. J'en arrivais à nourrir des rêves incongrus. La mère d'Héléna se tuerait au volant. L'ambassadeur d'Italie dégraderait son père. Claudio se promènerait avec un pantalon troué aux fesses, sans en être conscient, et serait la risée du ghetto. Autant de catastrophes qui obéissaient à cette règle. Ne jamais atteindre la personne même d'Héléna, mais ceux qui comptaient pour elle. Ces fantasmes me ravissaient au plus profond de mon être. J'arrivais au-devant de ma bien-aimée, l'air terriblement grave, et je disais d'une voix lente, solennelle, « Héléna, ta mère est morte. » Ou « Ton frère a perdu son honneur. » La douleur te fouettait le visage. Vision qui me transperçait le cœur et qui me faisait t'aimer plus encore. Oui, ma bien-aimée, tu souffres par moi. Ce n'est pas que j'aime la souffrance. Si je pouvais te donner du bonheur, ce serait mieux. Seulement j'ai bien compris que ce n'était pas possible. Pour que je sois capable de t'apporter du bonheur, il faudrait d'abord que tu m'aimes. Et tu ne m'aimes pas. Tandis que pour te donner du malheur, il n'est pas nécessaire que tu m'aimes. Et puis pour te rendre heureuse, il faudrait d'abord que tu sois malheureuse. Comment rendre heureux quelqu'un d'heureux? Donc il faut que je te rende malheureuse pour avoir une chance de te rendre heureuse après. De toute façon, ce qui compte, c'est que ce soit à cause de moi, ma bien-aimée. Si tu pouvais éprouver pour moi le dixième de ce que j'éprouve pour toi, tu serais heureuse de souffrir à l'idée du plaisir que tu me ferais en souffrant. Je me pâmais de délices. Il fallut trouver un nouvel hôpital. Il n'était plus question de nous installer dans une caisse de déménagement. En fait, nous n'avions pas l'embarras du choix. Il fut inévitable d'administrer les soins de santé au même endroit où nous préparions et conservions l'arme secrète. Ce n'était pas très hygiénique, mais la Chine nous avait habitués à la saleté. Les lits de Renmin Ribao furent donc reconstitués au dernier étage de l'escalier de secours de l'immeuble le plus élevé de San Litun. La cuve à urine trônait au centre de ce dortoir acrobatique. Les Allemands avaient été assez bêtes pour épargner nos réserves de gaz stérile, de vitamine C et de soupe en sachet. Elles furent entreposées dans des sacs à dos que nous suspendîmes aux rampes de l'escalier métallique. Comme la pluie était rarissime à Pékin, notre installation ne risquait pas grand-chose. Mais cette base secrète devenait beaucoup plus visible. Il eût suffi que les Teutons lèvent le nez et regardent avec attention pour nous repérer. Nous n'avions jamais été assez stupides pour y transporter un prisonnier. Quand nous voulions torturer une victime, nous descendions l'arme secrète. La guerre prit alors une dimension politique inattendue. Un matin, nous voulûmes monter au camp. Stupeur. La porte d'accès à l'escalier de secours avait été cadenassée. Et il ne fut pas difficile de déterminer que ce cadenas n'était pas allemand. Il était chinois. Ainsi, les gardes du ghetto avaient repéré notre installation. Elle leur avait déplu au point qu'ils prirent cette mesure monstrueuse, condamner un escalier de secours, le seul escalier de secours du plus grand immeuble de San Litun. En cas d'incendie, ses habitants n'auraient qu'à se jeter par la fenêtre. Ce scandale nous fit exulter de joie. Il y avait de quoi. N'y a-t-il pas un bonheur extrême à apprendre que l'on a un nouvel ennemi? Et quel ennemi? La Chine. Vivre dans ce pays nous adoubait déjà. Nous battre contre lui, nous élever au rang de héros. Un jour, nous pourrions dire à nos descendants, avec la voix sobre de la grandeur, que nous avions guerroyé à Pékin contre les Allemands et contre les Chinois. Le sommet de la gloire. En supplément, cette nouvelle merveilleuse. Notre ennemi était idiot. Il construisait des escaliers de secours et les cadenassait. Cette inconséquence nous enchantait. Autant bâtir une piscine et ne pas y mettre une goutte d'eau. En outre, nous nous prenions à espérer cet incendie. Après enquête, il serait révélé à la face du monde que le peuple chinois avait, pour ainsi dire, condamné à mort des centaines d'étrangers. Et en plus d'être des héros, nous serions élevés au statut d'opprimés politiques, des martyrs internationaux. En vérité, nous n'aurions pas perdu notre temps dans ce pays. Nous étions bien naïfs. En cas d'incendie et d'enquête subséquente, le scandale du cadenas eût été soigneusement étouffé. Il allait de soi que nous cacherions aux parents une affaire aussi juteuse. S'ils intervenaient, nous n'aurions plus aucune chance de devenir des martyrs. Et puis, nous détestions que les adultes se mêlent de nos histoires. Ils affadissaient tout. Ils n'avaient pas le moindre sens épique. Ils ne pensaient qu'aux droits de l'homme, au tennis et au bridge. Ils ne semblaient pas se rendre compte que pour une fois, dans leur vie insignifiante, on leur donnait l'occasion d'être des héros. Comble de vulgarité, ils tenaient à l'existence. Nous aussi d'ailleurs, mais à condition que nous puissions lui conférer notre prestige en la sacrifiant, par exemple, à un bel incendie. En fait, si cet incendie avait eu lieu, nous en eussions porté une part de responsabilité égale à celle des gardes chinois. Nous en étions vaguement conscients, sans que cela nous perturbât. Moi, je m'en fichais, d'autant plus que ni Elena ni ma famille n'habitaient cet immeuble. L'excellente nouvelle comportait cependant un inconvénient non négligeable. Nous n'avions plus accès au camp. Mais l'énoncé du problème comportait sa solution. Le cadenas était chinois. Une lime à ongles en métal léger suffit à l'anéantir. Et pour que les gardes ne s'inquiètent pas, nous eûmes la présence d'esprit d'acheter un autre cadenas chinois identique et intact, dont nous possédions les clés, et de le mettre à la place de l'ancien. Ainsi, en cas d'incendie, nous devenions les principaux criminels, puisqu'en fin de course, ce serait notre cadenas qui condamnerait à mort les fuyards. De cela aussi, nous étions vaguement conscients. Ce n'était pas un problème. Nous vivions à Pékin, pas à Genève. Nous n'avions jamais eu l'intention de nous livrer à une guerre propre. Nous ne désirions pas particulièrement qu'il y ait des morts, mais s'il devait y en avoir pour que la guerre continue, il y en aurait. De toute façon, ce genre de considération secondaire ne nous obsédait pas. De minimis non curat praetor. Il était normal que les adultes, ces enfants déchus, perdent à se soucier de ces questions un temps dont ils n'avaient pas d'usage précieux. Nous, nous avions un sens si aigu des valeurs humaines que nous ne parlions quasi jamais des plus de 15 ans. Ils appartenaient à un monde parallèle, avec lequel nous vivions en bonne intelligence puisque nous ne nous croisions pas. Nous n'abordions pas non plus l'inepte question de notre avenir, peut-être parce que, instinctivement, nous avions tous trouvé la seule vraie réponse. Quand je serai grand, je penserai à quand j'étais petit. Il allait de soi que l'âge adulte était voué à l'enfance. Les parents et leurs complices étaient sur Terre pour que leurs rejetons n'aient pas à se soucier de questions ancillaires comme la nourriture et le gîte, pour qu'ils puissent assumer à fond leur rôle essentiel, être enfant, c'est-à-dire être. Ces gosses qui dissertent de leur futur m'ont toujours intriguée. Lorsqu'on me posait la fameuse question « Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grande ?», je répondais invariablement que je ferais prix Nobel de médecine ou martyr ou les deux à la fois. Je répondais très vite, non pour impressionner, au contraire. Cette réponse prémâchée me servait à évacuer au plus pressé ce sujet absurde. Plus abstrait qu'absurde. En mon fort intérieur, j'étais persuadée que je ne deviendrais jamais adulte. Le temps durait trop longtemps pour que cette chose puisse arriver. J'avais 7 ans. Ces 84 mois m'avaient paru interminables. Ma vie était d'une longueur. La simple idée que je pusse encore vivre un nombre égal d'années me donnait le vertige. 7 ans supplémentaires? Non, ce serait trop. Je m'arrêterais sans doute à 10 ou 11 ans, au comble de la saturation. Je me sentais déjà presque saturée d'ailleurs. Il m'était arrivé tant de choses. Ainsi, quand je parlais de mon Nobel de médecine ou du martyr, ce n'était pas vanité. C'était une réponse abstraite à une question abstraite. Puis, je ne voyais rien de si grandiose à ces professions. Le seul métier qui m'inspira un respect véritable était celui de soldat, et en particulier celui d'éclaireur. Le sommet de ma carrière, je le vivais au présent. Après, s'il y avait un après, il faudrait bien déchoir et se contenter du Nobel. Mais au fond de moi, je ne croyais pas en cet après. Cette incrédulité en accompagnait une autre. Quand les adultes parlaient de leur enfance, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils mentaient. Ils n'avaient pas été enfants. Ils étaient adultes de toute éternité. La déchéance n'existait pas, car les enfants restaient des enfants, comme les adultes restaient des adultes. Cette conviction à formuler, je la gardais en moi. Je me rendais bien compte que je ne pourrais pas la défendre. J'y croyais d'autant plus fort. Elena ne raconta à personne que mon vélo était un cheval, ou inversement. De sa part, ce ne fut pas le signe d'une bonté particulière. C'était parce que je n'avais aucune importance. Elle ne parlait pas des quantités négligeables. D'ailleurs, elle parlait peu. Et elle ne prenait jamais la parole elle-même. Elle se contentait de répondre aux questions qui ne lui paraissaient pas indignes d'elle. « Tu feras quoi quand tu seras grande ?» demandai-je, par simple goût de l'expérimentation scientifique. Pas de réponse. A posteriori, son attitude confirmait mes vues. Les enfants qui trouvent une réponse à pareille question sont soit de faux enfants, il y en a beaucoup, soit des enfants qui ont le goût de l'abstraction et de la spéculation pure. C'était mon cas. Elena était un vrai enfant, qui n'avait pas une tournure d'esprit spéculative. Pour elle, répondre à une question aussi bête eût été s'abaisser. Car cette interrogation stupide équivaudrait à demander à un funambule ce qu'il ferait s'il était comptable. « D'où elle vient, ta robe ?» Là, elle daignait répondre. C'était le plus souvent « Maman l'a faite, elle coûte très bien. » Ou alors, « Maman me l'a acheté à Turin. » C'était la ville d'où elle venait. Bagdad ne me paraissait pas plus extraordinaire. Elle portait surtout des vêtements blancs. Cette couleur lui allait à ravir. Ses cheveux lisses étaient tellement longs que même nattés, ils lui descendaient jusqu'aux fesses. Sa mère n'eût jamais autorisé une Chinoise à les toucher. C'était elle qui, lentement, passionnément, entretenait le trésor de sa fille. Je préférais n'avoir qu'une natte. Mes traits m'en faisaient le plus souvent deux, comme à elle-même. Les jours où j'obtenais la natte unique, je me sentais très élégante. J'avais le plus grand respect pour mes cheveux, jusqu'à ce que je découvre ceux d'Elena. Dès lors, les miens me parurent triviaux. Cette vérité m'apparaissait surtout quand par hasard nous étions coiffés de manière identique. Ma natte était longue et sombre, la sienne n'en finissait pas et étincelait de noirceur. Elena avait 1 an de moins que moi, et je mesurais bien 5 centimètres de plus qu'elle. Mais elle m'était supérieure en tout. Elle me dépassait comme elle dépassait le monde entier. Elle avait si peu besoin des autres qu'elle me semblait plus âgée que moi. Elle pouvait passer des journées à arpenter l'espace exigu du ghetto, à petits pas très lents. Elle regardait juste assez pour voir qu'elle était regardée. Je me demande s'il y avait des enfants qui ne la regardaient pas. Elle inspirait l'admiration, le respect, le ravissement et la peur. Parce qu'elle était la plus belle, et parce qu'elle était toujours sereine, parce qu'elle ne faisait jamais les premiers pas dans les contacts humains, parce qu'il fallait venir au-devant d'elle pour entrer dans son monde, et parce que, en fin de compte, personne n'entrait dans son monde, qui devait être luxe hautain, calme hautain et volupté hautaine, et où d'elle-même, d'elle seule, elle semblait se complaire à la perfection.